Radio Okapi. Oh, Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ces journaux, le président de la République, Félix Tshisekedi, a adressé un message à la nation à l'occasion de la journée nationale du jeûne au coste. Vous en suivrez les temps forts dans cette édition. Nous reviendrons sur l'historique et la signification de cette journée de mémoire. Nous irons également à Beni, où une marche de commémoration a été organisée en hommage aux victimes de massacres. Autre temps fort de cette édition, dans le Lualaba, la nouvelle société civile congolaise dénonce l'attaque armée d'un site minier des creuseurs artisanaux des Mouchacha. L'incident relance les débats sur la présence de militaires dans les sites miniers. Et à suivre à la fin de cette édition, notre invité Innocent Mburanoumoué, directeur et chef de site adjoint du parc national des Lupemba. À l'occasion de la journée mondiale des éco-gardes, il revient sur le rôle de ces protecteurs de la biodiversité, les défis auxquels ils font face et l'importance de leur mission. Voilà pour les principaux titres, les détails dans un instant. Christophe Makassing à la présentation, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement congolais s'engage à faire préserver la mémoire du peuple et à faire avancer la justice sous l'impulsion du président de la République. C'est en ces termes que s'est exprimé ce dimanche Félix Tshisekedi. Des chefs de l'État a lancé ces messages à l'occasion de la journée du jeûne au coste, cérémonie qui s'est justement tenue au site mémoriel du jeûne au coste situé dans la commune de Lingwala, ici à Kinshasa. C'était en présence de la première ministre Judith Soumima Touluka, de membres de gouvernement, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, d'artistes ainsi que de survivants et des familles des victimes du génocide congolais. Les propos du président de la République ont été recueillis par Ella Chembalou.
Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, aucun peuple ne peut bâtir un avenir solide en détournant le regard de son histoire. Pour la nation congolaise, ce souvenir ne signifie pas demeurer prisonnière de la douleur. La mémoire n'est ni le culte du passé, ni l'entretien des blessures. Elle est une œuvre de vérité, une exigence de justice et un rempart contre le retour des atrocités. De Kasika à Makobola, de Shabunda à Kamituga, de Bukavu à Uvira, de l'Ituri au Nord Kivu, du Sud Kivu au Maniema, du Tanganyika au Kasaï, pour ne citer que ces lieux, notre territoire porte les stigmates de violence d'une extrême gravité. Il ne peut y avoir de paix véritable sans vérité, sans reconnaissance des souffrances, ni de justice. C'est pourquoi le gouvernement de la République est engagé sous mon impulsion à faire progresser avec méthode, constance et détermination ces deux exigences indissociables. Préserver la mémoire de notre peuple et faire avancer l'œuvre de justice.
Pour mieux comprendre la portée de cette journée de commémoration, il convient d'en rappeler les origines. La journée des génocides congolais pour les gains économiques est célébrée chaque 2 août en République démocratique du Congo. Cette date fait référence au déclenchement de la deuxième guerre du Congo, les 2 août 1998, point de départ d'une longue série de conflits qui ont endeuillé l'est du pays. Quel est l'essence alors du terme génocide? Tentative de réponse avec Blaise Nongala Mayanda.
Dans les lexiques congolais, les génocides désignent l'ensemble des massacres, des déplacements forcés, des violences sexuelles systématiques et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité perpétrés sur les sols congolais. La particularité de ces violences ayant coûté la vie à des millions de personnes, particulièrement dans l'est du pays, réside dans le fait qu'elles sont motivées et entretenues par la convoitise et l'exploitation illicite des ressources naturelles et minières de la RDC. Cette journée vise à rendre un hommage aux millions des martyrs congolais et à briser le silence autour de l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire moderne de l'humanité. À travers cette commémoration, la RDC attend exiger la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle, notamment à travers le travail du Fonarev, et réclamer la création d'un tribunal pénal international pour juger ces crimes. Elle se propose également de sensibiliser la communauté internationale, souvent qualifiée de silencieuse ou complice face à cette tragédie, et de mobiliser des représentations diplomatiques de la RDC à travers le monde afin d'obtenir la reconnaissance officielle de ces génocides.
Cette journée est également marquée à travers le pays par des manifestations de recueillement en mémoire des victimes. À Beni, au Nord Kivu, autorités, membres de la société civile et habitants ont organisé hier samedi une marche pacifique en hommage aux victimes de massacres attribués aux rebelles ADF. Les Génocostes ont aussi l'occasion de dénoncer les crimes commis pour les intérêts économiques et d'appeler à la justice pour les survivants. Les détails avec Martial Papi Moukeba.
La procession est partie de l'hôtel des villes de Beni jusqu'à Mbelu, dans les quartiers Rwangoma. C'est sur ce site que le 13 août 2026, les rebelles des ADF avaient tué une centaine de civils lors d'une des attaques les plus meurtrières qu'ait connue la ville. 10 ans plus tard, les participants ont rendu hommage aux victimes et appelé à une prise en charge des survivants encore marqués par ces violences. Pepe Kavota est président de la société civile de Beni.
Les hommes sacrés ont rassemblé la population de Mbelu pour attribuer l'amour à nos paisibles populations ici. Une centaine de personnes a été égorgées ici. Ces barbares des ADF ont tué nos pères, nos frères, nos sœurs ici. Il ne faut plus que ce genre d'actes barbares se répètent sur notre sol bénitien. Mais il faut commencer à guérir parce que il y a plusieurs qui ont vécu ces affres ici qui, n'est-ce pas, mentalement, ils sont devenus des malades.
Les représentants du gouverneur du Nord Kivu, Issa Kalobera, a appelé à rendre justice aux victimes des attaques des ADF. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Autre actualité, la nouvelle société civile congolaise Coordination des Qui S'en Fout condamne l'acte armé survenu dans la nuit du 30 juillet sur le site minier dénommé Indépendance en territoire de Mouchacha dans la province de Lualaba. Selon un communiqué publié ce samedi, cette attaque a coûté la vie à un militaire de la garde républicaine et fait 2 blessés graves. Pour cette organisation, cet incident relance la question de la présence des militaires sur les sites miniers pourtant interdites par les autorités du pays. Les détails avec Paul Munanga.
La nouvelle société civile de Qui S'en Fout précise que les militaires qui gardaient les sites miniers Indépendance a été surpris par les assaillants au moment où il dormait dans une guérite et il a été touché par des balles. D'après des sources locales, l'arme que la victime détenait et les munitions ont été emportées par les bandits. Une jeune femme et un garde industriel ont été blessés par balles et acheminés dans un centre hospitalier à Kolwezi. La société civile condamne cette attaque et exige l'ouverture d'une enquête. Dans son rapport, cette structure citoyenne annonce que la carrière Indépendance fait l'objet de pourparlers entre la société concessionnaire Comidé et la communauté pour la rétrocession du site minier à cette communauté. La société civile souligne que des exploitants illégaux occupent cette carrière dont un groupe de personnes se réclamant de la famille présidentielle. La nouvelle société civile congolaise Coordination des Qui S'en Fout appelle les autorités et la société Comidé à sécuriser les sites et accélérer le processus de remise de ces sites miniers à la communauté. Aucune réaction des autorités du territoire de Mouchacha ou de la province du Lualaba sur cette attaque armée. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et à l'est du pays, les autorités provinciales de l'Ituri renforcent les mesures de protection de la biodiversité. Les activités de chasse et de piégeage sont désormais suspendues dans la réserve de faune à Okapi des Poulous, dans les territoires de Mambasa. Selon le responsable de ces patrimoines mondiaux, cette décision prise à la suite d'un arrêté du gouverneur de province vise à favoriser la reproduction des espèces sauvages et à lutter contre leur disparition. Marcia Kizabiamungu nous en dit plus.
Dans son communiqué officiel de ce 30 juillet, la réserve à faune à Okapi et Refo informe tous les chasseurs et piégeurs régulièrement enregistrés ou pas qu'aucune activité de chasse ou piège n'est autorisée pendant la période du 1er août au 30 novembre prochain à l'intérieur de la réserve dans les provinces de l'Ituri et une partie de celles du Haut-Ouélé. Selon les responsables de la RFO, cette mesure vise à protéger les espèces rares et menacées, notamment les ongulés tels que les chevilles, cerfs ou sangliers, mais aussi les primates, dont les okapis, gorilles de montagne et d'autres animaux protégés. Berks Sanfossa, directeur de conservation pour les projets de conservation de l'okapi à la RFO, explique les bien fondés de cette mesure.
La loi congolaise autorise également les autorités compétentes à instaurer une fermeture exceptionnelle pour permettre à la faune de se reconstituer. Mais aussi, vous savez, il faut préserver l'équilibre des écosystèmes et la biodiversité.
Depuis un an et demi, trois okapis, dont deux mâles et une femelle, sont en captivité à la station de la réserve à faune à Okapi à Epulu dans les territoires de Mambasa. Bounia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Et puis au Nord Kivu, un violent épisode météorologique laisse derrière lui d'importants dégâts. Plus de 200 bâtiments ont perdu leur toiture après une pluie diluvienne accompagnée de vents violents qui s'est abattu sur l'agglomération des Vichumbi dans les territoires de Rutshuru. Selon des sources locales, plus de 300 ménages sont aujourd'hui sans abri. Les détails avec Bernardin Yangui.
Des images de désolation témoignent de l'ampleur des dégâts à Vichumbi. Plusieurs habitations ont été endommagées ou réduites en ruine après la forte pluie accompagnée de vents violents qui a frappé la localité vers 17h15 selon des sources locales. Selon un bilan provisoire, au moins 86 bâtiments ont perdu leur toiture ou ont été partiellement détruits. Parmi eux figurent environ 70 maisons d'habitation ainsi que plusieurs bureaux et salles de classe d'écoles primaires et secondaires de la zone. Quelques cas d'enfants blessés par l'effondrement de murs ou de charpentes de leurs habitations sont également signalés, même si aucun bilan détaillé n'est encore disponible. Selon les mêmes sources, plus de 60 familles seraient actuellement sans abri. Les habitants déplorent cette nouvelle épreuve dans une zone déjà fortement touchée par l'insécurité liée aux conflits armés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des affrontements ont opposé des éléments de l'F-123 qui contrôlent la localité à des hommes armés non identifiés venus du parc national des Virunga, provoquant une nouvelle vague de panique parmi les habitants de ce village de pêcheurs.
À Matadi, les monuments aux porteurs rappellent le rôle déterminant joué par de milliers d'hommes qui, avant l'arrivée de trains, des véhicules et des avions, assuraient les transports des marchandises entre Boma et Léopoldville, l'actuel Kinshasa. Cette imposante sculpture rend hommage au courage et au sacrifice de ces porteurs africains qui ont marqué l'histoire des transports en République démocratique du Congo. Élise Kavira.
Pendant des décennies, les porteurs ont été le principal moyen de transport dans l'État indépendant du Congo, puis dans le Congo belge. À pied, ils assuraient la liaison entre les littorales et l'intérieur du territoire, transportant tout ce dont l'administration et le commerce avaient besoin. Jour après jour, ces hommes parcouraient des dizaines de kilomètres à travers les forêts et les collines du Congo central. Sous le poids de la fatigue, la faim, les maladies et les accidents, nombreux parmi eux perdaient la vie en chemin. Face à ces difficultés, l'explorateur Henry Morton Stanley recommandant dès 1878 la construction d'un chemin de fer pour contourner les rapides et les chutes du fleuve Congo. La ligne Matadi-Léopoldville, achevée en 1898, remplaça progressivement le portage humain et facilita le transport des personnes et des marchandises. Aujourd'hui encore, le souvenir des porteurs demeure à travers le monument aux porteurs des Matadi. Cette sculpture géante représente trois porteurs, dont l'un est debout, le corps incliné par le poids de sa charge, tandis que les deux autres sont à même le sol, épuisés par la longue marche et accablés par le poids des colis qu'ils transportent. Une image réaliste de ces hommes dont la mémoire ne doit jamais être oubliée, tant leurs efforts et leurs sacrifices ont contribué au développement de notre pays. Depuis Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Et enfin, la République démocratique du Congo poursuit la mobilisation en faveur de la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. À Kinshasa, une journée nationale de soutien organisée au Musée national a permis de mettre en avant sa vision d'une francophonie résolument tournée vers la jeunesse, le numérique et l'intelligence artificielle. Les précisions dans ces reportages de Jean-Marc Matwaki.
Le musée national de la RDC a servi de cadre ce samedi 1er août à une journée nationale de mobilisation en soutien à la candidature de Juliana Lumumba, ancienne ministre de la Culture et des Arts de la RDC, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Organisée par les mouvements des femmes des 26 provinces et la structure Exalée internationale, dans son intervention, Madame Juliana Lumumba, candidate de la RDC pour le secrétariat général de l'OIF, a plaidé pour un investissement accru dans la formation des jeunes des États membres de la francophonie au métier du numérique et de l'intelligence artificielle, estimant que ces compétences constituent un levier essentiel pour l'emploi et le développement.
Il faut changer de logiciel, maman. On change de logiciel. Mais cette francophonie, cette jeunesse a besoin de quoi? A besoin de formation dans le numérique. Mais il y a le défi du numérique. Cette fracture, justement, numérique qui existe. Mais c'est pas le numérique que nous allons diminuer cette fracture. Parce que cette formation, elle sera faite par le numérique. On aura voir de plus en plus de jeunes formés.
Et pour les organisateurs, cette mobilisation vise également à témoigner du soutien de la société civile congolaise à une candidature qu'ils présentent comme porteuse de l'image de la RDC sur la scène internationale. Alain Ilunga, vice-président d'Exalé International.
C'est un choix idéal. C'est une femme qui a une carrure, qui a une carrière.
Actualité internationale.
Le président américain Donald Trump a annoncé samedi la suspension de nouvelles frappes américaines contre l'Iran. Selon lui, un accord de principe est en voie d'être conclu afin de mettre fin au conflit. Ces décisions visent notamment à favoriser les négociations portant sur la réouverture du détroit d'Hormuz et enfin la menace nucléaire iranienne. De son côté, Téhéran affirme rester sur ses gardes tout en poursuivant les discussions diplomatiques dans un contexte de fortes tensions régionales.
L'invité.
Notre invité est Innocent Mburanumwe, directeur et chef des sites adjoints du parc national de Lupemba dans le Haut-Katanga. À l'occasion de la journée mondiale des éco-gardes célébrée le 31 juillet de chaque année, il revient sur le métier d'éco-garde, son importance dans la protection de la biodiversité, ainsi que sur les défis auxquels sont confrontés ces hommes et ces femmes engagés dans la conservation de la faune et de la flore. Innocent Mburanumwe s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur le directeur Innocent Mburanumwe, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qu'un éco-garde et quel est son rôle?
Un éco-garde, c'est un agent professionnel public de l'État dédié à la conservation de la nature, chargé d'assurer la protection des ressources naturelles et de la biodiversité au sein des aires protégées. Il représente l'autorité de gestion du parc ou de la réserve et veille à l'application de lois et règlements relatifs à la protection de la nature, de la flore et des écosystèmes. Il sensibilise les communautés locales à la conservation et contribue à la collecte de données. Son rôle principal consiste à lutter contre les braconnages et surveille les écosystèmes, fait respecter les lois environnementales sur la biodiversité.
Pourquoi être gardien d'un parc est dangereux?
Le métier d'un éco-garde est considéré comme l'un des plus dangereux dans le domaine de la conservation. Pourquoi? Parce que les éco-gardes sont souvent confrontés à des braconniers armés, à des groupes criminels impliqués dans le trafic d'espèces sauvages, ainsi qu'à des conflits liés à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ils travaillent également dans des zones isolées où ils sont exposés aux maladies, aux incidents, aux intempéries et parfois à l'insécurité liée aux groupes armés.
Et comment est-ce que les éco-gardes du parc Upemba travaillent sur le terrain? Est-ce que ces éco-gardes sont armés?
Les éco-gardes d'Upemba travaillent sur le terrain et ils sont armés. Pourquoi? Parce qu'ils effectuent des patrouilles régulières à pied, en véhicule, à moto ou par voie fluviale, selon les zones à surveiller. Ils recherchent les indices de braconnage, ils démantèlent les pièges et assurent le suivi de la faune. Conformément à la réglementation en vigueur et à leur mission de protection, certains éco-gardes peuvent être équipés d'armes de service et recevoir une formation spécifique en fait d'assurer leur sécurité et celle du patrimoine naturel qu'ils protègent parce que les parcs d'aujourd'hui sont devenus les refuges des groupes armés.
Est-ce que les éco-gardes ont réussi à empêcher les braconniers à tuer les animaux, notamment dans le parc Upemba?
Les éco-gardes ont obtenu des résultats importants dans la réduction du braconnage grâce aux patrouilles régulières, aux arrestations de contrevenants, au démantèlement des pièges et à la sensibilisation des populations locales. Cependant, le braconnage n'a pas été totalement éliminé au parc national d'Upemba parce que la protection de la faune est un travail permanent qui nécessite des efforts continus, des moyens adéquats et la collaboration des communautés riveraines et des autorités. Ceci nécessite une forte sensibilisation pour que le braconnage mette fin dans ce parc.
Quelles sont les difficultés auxquelles les éco-gardes font face très souvent?
Les principales difficultés rencontrées par les éco-gardes sont normalement le braconnage organisé parfois armé, l'immensité des territoires à surveiller, les manques de moyens logistiques et d'équipements, les conditions climatiques difficiles, les conflits entre la conservation et certaines activités humaines, la présence éventuelle de groupes armés dans certaines régions et les risques sanitaires et les longues périodes passées loin de leurs familles. Ceci font étant que les éco-gardes aient des difficultés face à toutes ces problématiques que je viens de citer.
Et quel est le sens de la journée mondiale des éco-gardes qui est célébrée le 31 juillet de chaque année?
Et la journée mondiale des éco-gardes, que nous appelons World Ranger Day, célébrée chaque le 31 juillet, c'est une occasion de rendre hommage aux éco-gardes du monde entier pour leur engagement dans la protection de la nature. Elle permet également de commémorer ceux qui ont perdu la vie ou ceux-là qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Cette journée sensibilise le public à l'importance du travail des éco-gardes dans la conservation de la biodiversité et la protection du patrimoine naturel pour les générations futures. À cette occasion, il est important de reconnaître le courage, le professionnalisme, les sacrifices des éco-gardes du parc national de Lupemba et de toutes les aires protégées de la République démocratique du Congo qui œuvrent quotidiennement pour préserver la richesse exceptionnelle de la biodiversité nationale.
Monsieur le directeur Innocent Mburanoumoué, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Fin de cet entretien avec Innocent Mburanoumoué, directeur et chef des sites adjoints du parc national de Lupemba. Il répondait aux questions de Paulin Mounangor. Ainsi s'achève cette grande édition des 18h. Merci d'avoir suivi. Christophe Makassing l'a présenté sous la supervision de Lévin Bouingor. La coordination a été assurée par Jean-Désiré Kanyama avec Jean-Claude Siala à la mise en onde. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence est d'AP. Retrouvez-nous à 19h pour les derniers bulletins d'information.